un lieu qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. C'est ainsi, en vers parfait mais ennuyeux, que le grand Nicolas Boileau, dans son art poétique, résume en deux lignes les trois unités de l'art tragique. Unité de lieu, un décor de palais ou une maison cossue. Unité de temps, une révolution de soleil, soit une journée. Et unité d'action, tout doit être ordonné selon l'action principale. Le tout couronné par les lois de la bienséance qui interdisent qu'on montre notamment du sang sur scène. C'est dire combien Game of Thrones, où l'on viole, fornique et décapite à l'envi en sept endroits différents sur des années et selon des histoires parallèles, ne relève pas du théâtre classique mais bien du baroque, de l'outrancier, de la démesure et du dément. Et c'est de cette pièce en autant d'actes qu'il y a d'épisodes à chaque saison, de cette pièce gigantesque, sans queue de dragon ni tête de loup, qui tient de Shakespeare plus que du théâtre classique et du divertissement plus que de la leçon de morale, que nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Marianne Chaillant, auteur de Game of Thrones, une métaphysique. Physique des meurtres. Dans Game of Thrones, les héros sont massacrés sans rémission. Et chaque espoir finit comme il commence, c'est-à-dire dans le sexe ou le sang. Les frères et sœurs, Jaime et Cersei, couchent ensemble devant le cadavre de leur fils. Theon Greyjoy se fait amputer du pénis sous l'œil d'un homme qui mange une saucisse. Un peu plus tard, c'est le délicat, délicieux, adorable et magnifique prince Oberyn qui est tué par Gregor Clegane, lequel lui enfonce les doigts dans les orbites jusqu'à faire imploser son crâne. Ou alors c'est un père indigne qui, se prenant pour Agamemnon, organise l'autodafé de sa propre fille pour s'attirer la faveur des dieux avant une bataille qu'il perd lamentablement. Ou c'est un enfant qu'on pousse dans le vide parce qu'il a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Ou c'est une femme enceinte qu'on tue 20 fois. Ou c'est un dragon qui crame une petite fille. Bref, bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour Raphaël.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1, bienvenue dans Qui Vive. Vous signez aux éditions du Passeur un livre intelligent sur une série qui ne l'est pas moins. Game of Thrones, une métaphysique des meurtres. Un livre dans lequel vous insistez à bon droit sur la funeste vision de l'homme qui se dégage de chaque épisode de la série. Et vous allez jusqu'à invoquer les mânes du philosophe Thomas Hobbes, dont l'état de nature décrit un état qu'il dit lui-même « état dans lequel l'homme est un loup pour l'homme ».
C'est vrai Raphaël, et si vous le permettez, je vais faire une expérience, je vais vous soumettre à une petite expérience de pensée.
On inverse les rôles alors.
Procédé que j'utilise dans le livre pour le rendre plus ludique. Imaginez que vous êtes parti avec Arya vers Braavos sur un voilier.
Arya est la plus jeune fille d'Eddard Stark et que c'est une fille tout à fait courageuse et vengeresse.
En effet.
Ouais.
Quand tout à coup, ce voilier fait naufrage sur une île déserte sans aucun espoir d'être secouru. Que pensez-vous qu'il adviendrait des relations plutôt cordiales que vous aviez entretenues avec les passagers du voilier ?
Ça dépend des passagers qui survivent.
Pensez-vous qu'au bout de quelques semaines, vos relations de cordialité subsisteraient ou bien que s'instaureraient entre les passagers des conflits qui pourraient même dégénérer de façon dramatique ?
Immanquablement, des conflits qui dégénéreraient de façon dramatique.
Si vous pensez cela, vous avez donc cette vision qu'on pourrait appeler pessimiste ou réaliste, qui consiste à penser que les liens initiaux vont être supprimés, alors vous adhérez à la vision de Thomas Hobbes. Vous êtes donc le banneret de ce philosophe que, effectivement, la série semble avoir choisi.
Il faut rappeler un tout petit peu quand même ce que c'est que l'état de nature. Chez Hobbes est mu par deux passions. La première, c'est de sauver sa peau. La deuxième, c'est d'étendre sa puissance. Et ces deux passions mises en concurrence les unes avec les autres produisent une déflagration universelle.
Exactement. L'état de nature qu'on a imaginé ensemble, s'il y avait un naufrage d'un voilier, consiste à concevoir la nature humaine telle qu'elle serait déliée de toute relation au pouvoir. Est-ce que vous pensez que cette nature humaine révélerait sa bonté innée ou au contraire, cette sauvagerie primitive ? La série fait le pari de la sauvagerie primitive.
De la sauvagerie primitive. Et pourtant, il y a un gouvernement dans Game of Thrones. Il y en a même plusieurs, puisqu'on est en état de guerre civile permanente, ce qui d'ailleurs va plutôt dans le sens de ce que vous dites. On va entendre tout de suite la parole d'un des personnages les plus antipathiques et les plus complexes de Game of Thrones, c'est Lord Baelish, qui est un éminent personnage de King's Landing, c'est-à-dire de la Port-Réal, la cité où se trouve le trône de fer tellement convoité, et par ailleurs, le tenancier prospère d'un bordel efficace.
Vous voyez ce garçon, celui-là ? L'une des mouches de Varys. L'araignée s'intéresse prodigieusement à vos faits et gestes. Regardez là. Celui-ci est à la reine. Et vous voyez cette septa absorbée par son livre ?
Varys ou la reine ?
Non, c'est l'une des miennes. Avez-vous à votre service un homme en qui vous avez une confiance absolue ?
Oui.
Il eût été plus sage de répondre non, monseigneur.
Lord Baelish, peut-être ai-je eu tort de me garder de vous.
Vous garder de moi est sans doute ce que vous avez fait de plus sage depuis votre descente de cheval.
Voilà comment le menteur pousse le mensonge jusqu'à se présenter lui-même comme un menteur. Lord Baelish décrit à Eddard Stark, qui arrive du Nord, hein, qui arrive de la province, qui arrive d'un endroit où il règne en maître et il fait régner une forme de vertu. Et il arrive dans cet endroit de corruption qu'on appelle King's Landing, qui est donc l'endroit où les rois sont couronnés. Et il décrit cette cité comme véritablement ce qui se fait de pire et l'endroit du monde où il faut ne faire confiance à personne.
Exactement, ce en quoi il est pour Ned un professeur en philosophie aubésienne. Mmh. Il le sera d'ailleurs pour la fille de Eddard Stark, Sansa, plus tard.
Rappelons, hein, vous avez cité tout à l'heure Arya Stark, l'une des filles de Eddard Stark, surnommée Ned. Sansa Stark est sa sœur aînée. Exactement. Elle n'a pas franchement le même caractère, elle est moins combattante, si l'on peut dire. Et du coup, elle souffre davantage, puisque dans ce monde terrible, évidemment, seuls les guerriers s'en sortent, et encore.
Et encore. Mmh. Et effectivement, Baelish va initier, enfin, il va donner à Ned une leçon de philosophie que Ned n'entendra pas, hélas, en l'invitant à se méfier de tout le monde, l'invitant à concevoir qu'il en va ainsi de la nature humaine. L'homme est un loup pour l'homme, comme vous le disiez. Méfiance, rivalité, ruse, voilà les passions de King's Landing.
Dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme, l'homme aussi est un loup pour les loups. Et les Stark, dont le loup et l'effigie, l'apprennent à leurs dépens. C'est de Game of Thrones qu'on vous parle aujourd'hui, dans la joie, le sang, l'inceste et la bonne humeur. On vous retrouve dans un instant, mais dans l'immédiat, en l'honneur des Lannister, frères et sœurs, et de leur enfant psychopathe, une version plus délicate de l'inceste qui jamais ne passe à l'acte. Serge Gainsbourg sur Europe 1.
Raphaël Antoven.
Tout l'été, 15h-16h.
Sur Europe 1.
Bébé. quand dire, c'est ne pas faire. Telle est la morale d'une chanson plus chaste qu'il n'y paraît. On se retrouve tout de suite dans Le Sexe et le Sang sur Europe 1.
Raphaël Antoven, qui vive sur Europe 1. Respirez.
Détendez-vous.
C'est l'été sur Europe 1. Europe 1.
Qui vive ?
Raphaël Antoven.
Dans Game of Thrones, cette fresque où des cités et des princes s'entretuent pour conquérir un trône qui, in fine, leur coûtera la vie, la question la plus importante, sinon la plus décisive, est celle de la sexualité. En quoi consiste la perversité ? Y a-t-il une sexualité normale et une contre-nature ? Faut-il suivre son plaisir, jouir sur cette terre pendant le court intervalle de la vie ? Ou bien normer l'usage de son sexe ? Contentons-nous de remarquer pour l'instant que les moins libéraux des personnages de la série sont aussi les plus pervers, ceux qui rejettent avec le plus de véhémence l'homosexualité, qui condamne avec le plus de force la prostitution, c'est-à-dire les Lannister, sont aussi des monstres de sadisme et d'inceste à côté desquels les Borgia composent une famille décente.
Mon estomac, néanmoins, se porte tout à fait bien, somme toute. La seule raison qu'il aurait éventuellement d'être dérangé serait les détails des activités nocturnes de votre petit-fils. Les niez-vous ?
Oh, certes non. Un avaleur de sabre jusqu'à la moelle. Mais il n'est que naturel que de Garnement explore certaines possibilités sous les couvertures.
Il se peut que au jardin ait une grande tolérance pour les comportements contre nature.
Je n'irai pas jusque-là. Certes, nous ne sombrons pas dans un grand désarroi à propos de discrètes parties de sodomie, mais... un frère et une sœur. Au pays d'où je viens, voilà une tâche qui serait très difficile à ôter au lavage.
Oh! Vous aimez autant les uns que les autres, garçons et filles.
Cela te paraît surprenant?
Tout le monde a une préférence.
Alors tout le monde passe à côté de la moitié des plaisirs de la vie. Les dieux ont créé cela et je m'en délecte. Les dieux ont créé ceci et je m'en délecte. Quand il s'agit de guerre, je me bats pour Dorne. Quand il s'agit d'amour, je ne choisis pas mon camp.
Deux extraits tout à fait intéressants pour notre discussion, Marianne Chaillant. D'abord, une discussion entre la vieille Lady Olenna et le vieux Tywin Lannister, où l'un reproche à l'autre, la dame, l'homosexualité de son petit-fils, à quoi elle répond que ses propres enfants couchent ensemble. Donc on a là un débat où l'homosexualité se défend face à l'inceste, et qui lui-même lui reproche à l'homosexualité un comportement contre nature. Et puis un extrait du prince Oberyn, qui est alors là vraiment un texte, un moment remarquable, où il explique avec un certain bon sens d'ailleurs, que se priver d'homosexualité ou d'hétérosexualité, c'est se priver de la moitié des plaisirs disponibles sur Terre. On a ici, je crois, avec ces deux moments, soigneusement choisis par Julien Tricard pour les besoins de cette émission, un panorama presque exhaustif de l'ampleur que prend la question sexuelle dans Game of Thrones.
Oui, et vous aviez raison tout à l'heure de dire que les plus réactionnaires sont d'ailleurs aussi les personnages qu'on déteste le plus dans la série. Tywin qui s'oppose là à Olenna sur la question de l'homosexualité de son petit-fils, et qui s'oppose aussi à la prostitution de son fils Tyrion, avant que de lui-même céder à ce
penchant. Au goût de Tyrion pour la prostitution.
Au goût de Tyrion pour la prostitution.
Tyrion
oui,
est un nain. Hein. Rappelons
oui,
que Tyrion est un nain qui ferait probablement fortune s'il se prostituait lui-même. Là-bas, néanmoins, il se trouve que là, c'est surtout un amateur de femmes.
Oui, en effet. Alors, c'est vrai que cette série normalise les relations homosexuelles, invite à une forme de pansexualité à travers le personnage d'Oberyn, effectivement. En même temps, vous disiez, les Lannister sont cette famille de pervers. Et là, la question n'est pas tranché finalement dans ce débat entre inceste et homosexualité, puisque l'inceste est présenté sous deux aspects dans la série. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a l'inceste de Jaime et Cersei d'abord.
C'est-à-dire le frère et la sœur Lannister.
Qui
donc.
Sont deux personnes majeures consentantes et qui s'aiment.
Oui.
Et l'inceste est aussi présenté à travers les filles de Craster. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce personnage qui est juste au-delà du mur.
Tout à fait, qui est un personnage épouvantable, puisqu'il fait des enfants à ses propres enfants.
Exactement.
En fait, c'est ça. Voilà. Donc c'est one big family, comme il
Exactement.
Dit hein, lui-même. Il est assez hospitalier d'ailleurs, il accueille volontiers les gens.
Voilà.
Condition qu'on touche pas ses filles.
Exactement. Et là, on a l'opposition entre deux formes d'inceste. Et il me semble que sur ce point, comme sur tant d'autres points d'éthique appliqués auxquels la série se questionne, justement, elle oppose pas une réponse nette, dogmatique, mais elle nous questionne plutôt au fond. Pouvons-nous juger et au nom de quoi blâmerions-nous la sexualité de Jaime et Cersei ?
Europe 1, Raphaël Antoven.
Mais la série, en même temps, laisse entendre, enfin, la possibilité d'un blâme, puisque l'enfant qui naît de leurs amours, Joffrey, qui devient lui-même roi, indûment d'ailleurs, puisqu'il n'est en rien l'héritier dynastique du trône, bref, l'enfant qui usurpe sa place sur le trône, et qui est donc le fils du frère et de la sœur, est un monstre parfait, dont on laisse entendre que la monstruosité provient de la consanguinité.
Et vous vous rappelez peut-être cette discussion entre Cersei et Tyrion, lors de la bataille de la Nera.
La sœur et le frère nain. Rappelons que les Lannister ont trois enfants. Jaime, qui est un beau chevalier un peu méchant, compliqué en tout cas. Cersei, qui est vraiment une épouvantable bonne femme, mais par ailleurs extrêmement stratège et efficace. Et Tyrion, qui est le nain, qui lui-même est plus ambivalent, qui peut être tantôt extrêmement sympathique, tantôt odieux.
Et lors de cette discussion, Cersei, effectivement, interroge son frère Tyrion et lui demande « Crois-tu ?» Et parfois, je pense moi-même que la personnalité de Joffrey est la punition des dieux. Ce à quoi Tyrion lui répond « Pas du tout, elle a trois enfants, Cersei, avec Jaime. Et parmi les trois, Tommen et Myrcella sont des très bons enfants. Et est-ce que vraiment la perversion de Joffrey peut être mise sur le compte de l'inceste ?» Je vous rappelle aussi que Daenerys Targaryen...
Alors ça, c'est un autre élément
c'est un
de
autre
l'histoire,
élément.
Mais il faudrait que vous nous retraciez un instant, pour nos auditeurs, la généalogie des Targaryens, qui est au fond le cœur de l'histoire de Game of Thrones.
Et Daenerys, qui est la fille du roi fou, et de sa propre sœur... Et sans doute une des impétrantes les plus prometteuses de la série, et nombreux sont les fans de Daenerys, elle est elle-même l'enfant de l'inceste.
Je signale à nos auditeurs qui ne sont pas fans d'Arnaud Montebourg que impétrant signifie candidat. Hein. Elle est candidate au trône, allez-y, pardon Marianne Chaillot.
Daenerys est fille d'inceste, et ses parents, Aerys Raela, sont donc eux-mêmes frères et sœurs. Et les parents de Aerys sont eux-mêmes frères et sœurs. Donc chez les Targaryens, c'est la norme. Et pourtant, personne ne blâmera Daenerys, et tout le monde s'accorde à reconnaître en elle une femme exceptionnelle.
Une souveraine possible, effectivement, voilà. Et quelqu'un qui découvre son tempérament de souveraine à l'occasion d'un viol.
En effet.
Puisqu'elle est violée par le mari qu'on lui impose d'avoir.
Pour commencer.
Si vous regardez Game of Thrones, chers auditeurs, vous y verrez des meurtres, des calculs, des champs de bataille, des longs couteaux, et vous vous demanderez si les valeurs morales sont ce qui nous sauve de la barbarie, ou bien les préceptes au nom desquels les hommes s'entretuent, parce qu'il faut bien dire que les bouchers y convolent souvent sous la bannière du bien. C'est de la métaphysique des meurtres et de Game of Thrones qu'il est question aujourd'hui sur Europe 1 dans Qui Vive, qui pour un instant seulement vous laisse en compagnie d'autres démons qui font leur miel des tragédies. Il y a de la haine d'Erita Mitsuko sur Europe 1.
Raphaël Antoven.
Tout l'été, 15h-16h,
sur Europe 1.
On n'a pas que de l'amour. Ça, non. On n'a pas que de l'amour à vendre. Ça, oui. Il y a de la haine. On n'a pas que de l'amour. Ça, non.
n'a pas que de l'amour à vendre, il y a de la haine. La haine aussi, il faut qu'elle se répande sans que ça freine. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans un instant pour y parler de Game of Thrones sur Europe 1.
Europe 1. Qui vive ? Raphaël Antoven.
À l'un de ses anciens élèves, devenu son pire ennemi et qu'il accuse de penser que sa philosophie est la meilleure, Spinoza répond qu'il ne sait pas si sa philosophie est la meilleure, mais qu'en revanche, il est certain de comprendre la vraie philosophie. Terrible réponse et si mal comprise que ses détracteurs s'en sont servis pendant des siècles pour présenter Spinoza, ce prince de la tolérance, comme un philosophe dogmatique, à l'image, tiens, des fous de Dieu de Game of Thrones qui s'entretuent parce qu'ils se ressemblent.
Lorsque mon fils avait 5 ans, il m'a dit « Je ne veux jamais mourir. » J'aurais voulu lui répondre « Sois sans crainte, tu ne mourras jamais. » Il m'était insupportable de l'imaginer couché dans le noir, seul et terrorisé. Je crois que les mères et les pères ont inventé les dieux parce qu'ils voulaient que leurs enfants dorment paisiblement.
J'ai vu quelque chose dans les flammes. Moi non plus, je ne croyais pas, mais quand la vérité est visible... Qu'elle est là, devant vos yeux, aussi vraie que le sont ses barreaux. Comment nier une existence à son dieu ?
Je suis la princesse Yérin de la maison Baratheon. Je suis votre fille.
Quand un homme sait qui il est, et qu'il demeure toujours fidèle à lui-même, le choix n'en est pas un. Il doit accomplir son destin, en dépit de sa répugnance.
Y a-t-il un moyen de vous aider, père ?
Oui, il y en a un.
Père, aide-moi !
C'est la volonté du Seigneur.
Non ! S'il vous plaît !
C'est une bonne chose.
Détachez-moi, non !
Une grande chose.
Arrêtez-le !
Entends-nous, ô Seigneur.
Vous n'avez pas le droit !
Nous te donnons en offrande cet enfant.
Je vous en prie !
Puisses-tu la purifier par ton feu, que ta lumière à jamais guide nos pas.
Arrêtez ! Non, arrêtez ! S'il te plaît, papa ! Non !
Alléluia, on vient d'entendre Sœur Davos qui parle de son fils à Stannis Baratheon, l'un des personnages, l'un des candidats au trône de fer dans Game of Thrones, et qui lui adresse une leçon d'athéisme en fait, hein, alors que l'autre, celui à qui il parle, est le plus fervent adepte du Seigneur de la Lumière. Donc premier moment, et puis l'instant d'après, la scène horrible, une scène épouvantable où Stannis, suivant les conseils de Lady Mélisandre, une sorcière, met sa propre fille innocente au bûcher pour prouver sa foi et sa soumission au dit Seigneur de la Lumière. Est-ce à dire qu'il n'y a dans Game of Thrones que le choix entre d'un côté des athées lucides et impuissants et de l'autre côté des illuminés qui croient détenir la vérité et font brûler leurs enfants en son nom ?
Il y a dans Game of Thrones plusieurs religions, pas simplement celle du dieu de la lumière.
Vous parlez d'un affrontement polythéisme-monothéisme d'ailleurs.
Il y a le dieu multiface qu'Arya va rencontrer à Braavos, Arya Stark. Il y a le culte des sept qui est la religion officielle du royaume.
Avec le septon qui gouverne
septon,
tout cela. Voilà.
Il y a le dieu noyé auquel croit la famille Greyjoy. Les Fernés, et il y a les anciens dieux, les dieux que vénèrent les Stark, les dieux qu'on vénère dans le Nord, ça ressemble plutôt à une forme d'animisme. Donc on a une représentation assez complexe des différentes formes de religiosité, mais c'est vrai qu'on a aussi cet affrontement entre des personnages athées, comme Davos, comme Tyrion Lannister, et des personnages croyants et qui vont même parfois, au nom de leur foi, commettre des actes absolument terrifiants.
Davos est un soldat remarquable, fidèle serviteur de Stannis Baratheon, qui est falot et qui n'a absolument pas les épaules pour le trône auquel il prétend, et qui n'est d'ailleurs candidat que par hasard finalement, parce que son frère a été assassiné. Davos est un soldat absolument remarquable, et Tyrion, l'autre athée, pour le coup, lui, met en pratique son absence de foi, d'une certaine manière, en déduisant une absence totale de principe.
Effectivement. Mmh. Il y a d'ailleurs cette phrase très très drôle de dire, je n'oserais pas la citer exactement.
Allez-y.
Non, quand même, on nous écoute.
Allez-y, on est sur, oui, on est sur, enfin, si peu de gens, allez-y.
Si on pouvait prier, en associant à la prière une sexualité épanouie, alors je serais croyante, dit Tyrion. Mmh. C'est bien ce mépris du corps dans la religion qui est pour Tyrion un des reproches qu'il fait à la religion, et sa sœur Cersei l'apprendra, on va en parler peut-être, lors de la marche de la honte qu'elle subit, hélas, à la fin de la saison 5.
On va en parler, tiens, de la marche de la honte, mais juste avant ça, quand même, un point sur les hurlements de la petite fille qu'on a entendu, voilà. Auxquels nos auditeurs ont eu droit, puisqu'on leur présente la série, eh bien, dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire de pire. La référence ici est claire. Vous citez Kierkegaard, on va en parler un instant, mais c'est aussi Agamemnon, le roi des Grecs, qui sacrifie Iphigénie pour que les vents soient favorables au bateau grec qui cingle vers la ville de Troie.
Effectivement. Stanis oscille entre Agamemnon et Abraham. Effectivement, je cite Kierkegaard et dans Crainte et tremblement, qui évoque la figure d'Abraham, qui est pour lui le chevalier.
Parlons un instant de ce passage, c'est important.
Voilà, le chevalier de la foi. Et je ne sais pas si vous avez vu, on sort de la série deux secondes, mais c'est pour mieux y revenir. Si vous avez vu le film Indiana Jones, c'est la dernière croisade.
Oui, il y a le saut de la foi, c'est la troisième épreuve.
Lorsque Indiana Jones se retrouve face à un ravin, je ne sais pas ce que vos auditeurs en pensent, mais si on était face à un ravin, avec comme seule promesse le vide sous nos pieds, et que la consigne de Dieu était seul le vrai croyant pourra passer, est-ce que vous oseriez avancer un pas dans le vide?
Si je suis un vrai croyant, oui. C'est-à-dire, si je ne fais pas le calcul de mon intérêt dans le geste que je fais, oui. Mais je ne suis pas un vrai croyant. En l'occurrence, Abraham, c'est celui à qui Dieu demande de tuer son fils. Et comme c'est un vrai croyant, il y va. Et c'est la raison pour laquelle le fils est épargné.
Le vrai croyant croit en dépit de l'absurde. Le vrai croyant, c'est accepter ce renoncement à toute forme de rationalité.
À ce compte-là, si Stanis Baratheon était un vrai croyant, il serait absous par le Dieu auquel il croit.
Effectivement. Mais pas par les spectateurs de la série, manifestement.
Non, ça c'est sûr. Bah écoutez, quand même, voilà un type qui fait cramer sa fille. C'est pas des manières.
Ah oui, c'est affreux.
C'est épouvantable.
Mais j'avais lu, comme vous, les pièces qui nous montrent le sacrifice d'Iphigénie. Je crois que la série nous a aidés à prendre la mesure de l'horreur de cet infanticide. Et en même temps, si on a lu Kierkegaard, au fond, ça nous questionne sur le geste du croyant et sur...
Jusqu'où le croyant peut-il aller trop loin?
Exactement.
Ma fille, il est trop vrai. J'ignore pour quel crime la colère des dieux demande une victime. Mais ils vous ont nommé un oracle cruel, veut qu'ici votre sang coule sur un autel. C'est Racine qui écrit ça dans sa tragédie. Iphigénie, qui est une fausse tragédie puisqu'il sauve la vie d'Iphigénie à la fin de la pièce. C'est une autre histoire. Vous avez parlé du mauvais sort qui arrive à la reine Cersei, qui est tellement antipathique d'ailleurs qu'on est presque content, même si on souffre un peu avec elle. C'est un épisode épouvantable de la série, peut-être le plus douloureux, en tout cas l'un des plus douloureux, l'un des plus difficiles à regarder. On va entendre tout de suite un extrait et on va en parler parce qu'il témoigne de l'utilisation politique qu'on peut faire de la religion. Écoutez.
Les guerres apprennent au peuple à obéir aux armes, pas aux dieux.
Les dieux doivent peut-être avoir leurs armes à eux. Dans les temps qui précédèrent les Targaryens, les ordres de la foi militante dispensaient la justice des sept.
Les ordres de la foi militante ont été dissous il y a plus de 200 ans.
Si j'exposais au roi mon fils le caractère sacré de leur fonction, je ne doute pas qu'il signe un décret qui armerait les croyants que vous jugeriez dignes de cet honneur.
Une armée qui défendrait les âmes et les corps des gens du petit peuple?
Une armée au service des dieux eux-mêmes. Et au vôtre, bien entendu. J'ai péché. Je le vois maintenant. Comment ai-je pu être si aveugle pendant si longtemps?
Vous avez fait un premier pas sur le chemin de la rectitude. En vertu de cela, je vous autorise à retourner au Donjon Rouge.
Je peux m'en aller.
Après votre expiation.
Elle se présente à vous avec un cœur humble, exempt de secrets, nu aux yeux des dieux et des hommes, pour accomplir sa marche de rédemption.
Infamie. Infamie.
Allô ?
Raphaël Antoven,
15h-16h
sur Europe 1.
Voilà ce qui se passe quand on couche avec son frère dans une cité primitive et là où ça n'est plus autorisé, où soudain ça devient un péché. Qui discute hein, dans la scène qu'on a entendue, Marianne Chaillant?
Alors dans l'extrait, on a entendu la reine Cersei avec le grand moineau, le chef de la foi militante.
Savonarole, quoi.
Qui était un ordre qui avait été dissous par les Targaryens au prix de hautes luttes. Et Cersei croit à tort. Elle aurait dû lire Nietzsche. Elle croit à tort qu'elle va pouvoir se servir de cette foi militante pour éliminer ses adversaires, en l'occurrence les Tyrell.
Parce qu'ils sont les Tyrell qui sont une des familles les plus puissantes de la ville et donc elle est en guerre contre eux. On n'entre pas dans les détails généalogiques de cette baston, c'est très important.
C'est une ruse politique qu'elle cherche à faire. Elle se sert de la foi et hélas, cela se retourne contre elle. Comment n'y a-t-elle pas pensé? Elle veut éliminer le frère de Margaery qui est homosexuel et elle ne se rend pas compte qu'elle-même, ayant commis l'inceste, Herbert sera la prochaine victime de cette femme du temps.
Ce qui met d'accord, alors cette fois-ci, on a entendu tout à l'heure la discussion entre Tywin et la grand-mère Tyrell. L'un reprochait l'homosexualité de son petit-fils à l'autre, et l'autre disait « oui, mais vos enfants couchent ensemble ». Ici, tout le monde est d'accord. Aux yeux du grand moineau, ça n'est pas parce qu'on se sert de lui pour éliminer un homosexuel qu'il va se dispenser de vous châtier votre propre inceste.
Exactement. Aux yeux des contempteurs du corps, comme dirait Nietzsche, nul ne trouve
grâce. Ceux qui méprisent le corps.
Ceux qui méprisent le corps. Nul ne trouve grâce. Et vous disiez qu'on n'était pas si triste, si affligé par ces 7 longues minutes de télé. Plus longues, j'imagine, pour Cersei de traverser toute la ville de King's Landing. Ouais. Pour ma part, j'ai été...
Toute nue.
Sous les insultes qu'on a pu entendre. Pour ma part, j'aime bien ce personnage de
mais
Cersei.
Je sais, vous la défendez dans le livre. On n'a pas le temps de s'engueuler à son sujet, mais vous la défendez. Pour moi, c'est la pire.
Pour tous ceux qui auraient lu et qui auront peut-être envie de lire Nietzsche, on a dans cette scène, je trouve, l'incarnation parfaite de ce pourquoi Nietzsche va s'en prendre de façon si violente à la religion. En un mot, prêcher la chasteté, c'est inciter à la contre-nature. Voilà ce que reproche Nietzsche aux croyants, les hallucinés de l'arrière-monde, qui vont inventer, parce qu'ils sont les derniers de ce monde, un autre monde dans lequel ils seront les premiers.
Et qui déguisent la contrition en vertu. Naturellement, ce sont les pires.
Circe, c'est jouir de son corps, voilà ce que la dame derrière elle, la sœur de la foi militante, qui n'a pas l'air très heureuse de vivre, pas très épanouie dans son corps, je pense, lui reproche.
Et ne lui pardonne pas.
Foi
et pouvoir, pureté, corruption, prière, clémence des dieux, confession, miséricorde, c'est du phénomène religieux dans la série Game of Thrones que nous vous parlons aujourd'hui dans Qui vive, en compagnie de Marianne Chaillan, qui sort au passeur un très bon livre, Game of Thrones, une métaphysique des meurtres. On y revient dans un instant, mais d'abord, et avant de sonder les abîmes de Westeros, Émilie Simon sur Europe 1, mon chevalier.
Europe 1, Raphaël Antoven. I wrote some songs, they're all for you. There's nothing else that I can do. Too late to pray, too soon to see.
Pour l'homme qui m'aimait tant, que j'aimerais toute ma vie, mon chevalier. Et ça prouve au moins une chose, c'est que le chevalier en question n'était pas un Lannister. A tout de suite, les amis.
Raphaël Antoven, qui vive sur Europe 1.
Et ce week-end, pour bien préparer la rentrée, Europe 1 vous offre de superbes cadeaux. Vous jouez pour un iPad Air 2, plus un iPad mini, plus un lot de la marque mythique Tans avec deux cartables ou deux sacs à dos et deux trousses. Retrouvez-les sur leur site internet tans.fr. Valeur totale de ce lot exceptionnel, près de 1000 euros. Alors pour tenter votre chance et peut-être gagner tous ces sublimes cadeaux, comment on fait? Eh bien c'est tout simple. Vous envoyez le code cadeau au singulier, C-A-D-E-A-U, par SMS au 739-21, 65 centimes plus le coût du SMS. Vous nous appelez au 39 21 50 centimes la minute. Trois messages pour jouer. Bonne chance à tous. Extrait de l'album du même nom, troisième opus studio d'Art Mengo, sorti en 1995 sur Europe 1.
Europe 1,
qui vive.
Raphaël Antoven.
Ma Marianne Chaillant est l'invitée de Qui Vive pour y parler de Game of Thrones, une série remarquable à laquelle elle a consacré une très utile et opportune métaphysique des meurtres parue aux éditions du Passeur. Il faut dire que Game of Thrones, ce n'est pas que du sexe, du sang, des dragons enfermés, des sœurs tyranniques, des eunuques tout-puissants et des meurtres d'enfants. C'est aussi tout cela à la fois. Game of Thrones, c'est de la politique.
Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Il n'y a pas de moyen terme.
Ça, c'est Cersei, la coquine, la fille Lannister, qui déclare ça et qui d'ailleurs commence par gagner avant elle-même, non pas de mourir, mais de perdre sérieusement. Alors, il y a une histoire religieuse hein, dans Game of Thrones, on en a parlé un petit peu, différentes religions, les polythéismes et les monothéismes qui s'opposent, des pensées magiques, des superstitions, etc. Mais au-delà de ça, ou peut-être en amont de cela, il y a aussi une histoire politique, c'est-à-dire une évolution politique qui a un sens, qui a une signification. De loin, ça ressemble à un jeu de conquête, à une concurrence étalée sur plusieurs saisons, mais en réalité, il y a une généalogie derrière tout ça et une histoire énorme. Et l'un des mérites de la série est de nous donner le sentiment qu'on arrive au bout d'une histoire multiséculaire, multimillénaire, Marianne Chaillant.
En effet. D'ailleurs, la série débute dans les semaines qui précèdent la mort du roi Robert et va s'ouvrir à la mort du Robert une bataille de...
Il faut bien dire qu'au début, on ne comprend rien du tout, d'ailleurs. Toutes les familles s'affrontent, on ne sait pas qui est qui. C'est le chaos. Le premier épisode, c'est le chaos.
Ce roi meurt et s'ouvre alors la question de sa succession. Ouais. Il faut dire que ce roi est venu interrompre des siècles de règne de monarques targariens. Ouais. Les Targaryens ont été par lui détruits, sauf deux qui sont en exil, Viserys et la sœur Daenerys Targaryen. C'est donc Robert qui règne.
Il n'est pas douteux d'ailleurs qu'entre le frère et la sœur, il y ait eu des relations incestueuses à un moment ou à un autre. En tout cas, le frère se conduit avec la sœur de façon si paternaliste, à la limite, qu'on a presque le sentiment qu'il la possède complètement jusqu'au moment où elle s'affranchit de lui.
Effectivement. Mmh. Donc, lorsque Robert vient à mourir, la question de la succession est ouverte. Il se trouve que Eddard Stark, qui est un homme droit, moral, vertueux, est chargé de mener à bien cette succession. Il sait que les enfants de Robert Baratheon, roi des Sept Couronnes, ne sont pas ses enfants.
Ne sont pas ses enfants. Bien.
Il choisit donc...
Mais les enfants du frère et de la sœur Lannister.
Bon. Voilà. Et il choisit, alors que Baelish lui a conseillé de laisser Joffrey monter sur le trône, d'être fidèle à ce qu'il sait être vrai et de faire monter Stannis Baratheon sur le trône.
C'est-à-dire l'un des héritiers de la famille légitime. Stannis Baratheon, c'est le frère de Robert Baratheon, c'est le frère du roi.
C'est vrai. C'est vrai. Et néanmoins, ce choix de Eddard Stark va lui coûter la vie.
Alors, c'est intéressant. Tiens, on va entendre tout de suite d'ailleurs le passage, une réunion du conseil où l'on entend Eddard Stark, à son propre détriment, hein, d'une certaine manière, défendre la position vertueuse en politique. Écoutez.
Le roi n'a aucun enfant légitime. Joffrey et Tommen sont des bâtards de Jaime Lannister.
De sorte que quand le roi mourra...
Le trône passera à son frère, Lord Stannis.
Oui, à ce qu'il semble. À moins que...
Il n'y a pas de « à moins que ». C'est lui l'héritier légitime, rien ne peut changer cela.
Il ne peut s'emparer du trône sans votre aide. Vous seriez bien avisé de la lui refuser et de faire en sorte que Joffrey réussisse. Tout le pouvoir est à vous. Il vous suffit de tendre la main et de le prendre. Faites la paix avec les Lannister. Relâchez le gnome. Mariez votre fille à Joffrey.
Ce que vous suggérez, c'est une trahison.
Seulement si nous perdons.
Europe 1, Raphaël Antoven.
On propose à Eddard Stark de sceller une alliance avec les Lannister, qui sont eux-mêmes acoquinés au Baratheon et donc par la même prétendent au trône de fer. Et au lieu de cela, sentant la fourberie, lui préfère rester légitimiste. Les conséquences sont incalculables. Les conséquences de sa vertu sont désastreuses.
Cet extrait que l'on vient d'écouter fonctionne très bien avec le premier où on a entendu Cersei dire cette formule qui est une des formules les plus célèbres de la saga. Quand on joue au jeu du trône, il n'y a pas de moyen terme, on gagne ou on perd. Mm-hmm. Là, nous venons d'entendre un extrait où Baelish invite Ned à un stratagème qui lui permettrait de garder la mainmise sur le pouvoir. On peut dire qu'on assiste au deuxième set du match qui va voir la défaite de Eddard Stark et à travers lui la défaite de Lord Kant et de cette morale déontologique Baelish comme Circé, lui, eux, ont fait le choix de Machiavel. Et là, je crois que dans cet extrait, on voit très bien comment la morale kantienne échoue, hélas, devant la réalité et le pragmatisme.
Ce qui se pose ici, hein, voilà, c'est ça, c'est le débat, en vérité, qui se pose ici. C'est un débat classique en cas de conquête de pouvoir, en particulier quand le pouvoir est arbitraire. C'est le débat qui oppose le maintien de la vertu, quoi qu'il en coûte, ou l'éthique de conviction, à l'idée que bah, celui qui veut la fin veut les moyens et qu'il faut savoir s'entendre avec son pire ennemi, en particulier quand il vous servira de marchepied pour accéder au trône.
Exactement. Et ce qui est paradoxal, c'est que Eddard Stark soutient Stannis, cet héritier légitime, en vertu de principes moraux que Stannis n'honore pas. Lui qui déclare « les méthodes propres ne font pas gagner les guerres ». Lui qui a été capable de faire assassiner son frère durant la nuit alors qu'il lui avait promis de lui laisser jusqu'au matin pour se rallier à sa cause. Stannis, lui, a fait le parti de Machiavel et c'est pourtant ce même Stannis que Ned Stark va défendre.
C'est-à-dire qu'au nom de la vertu, Eddard Stark en vient à défendre un type qui est à peu près aussi crapuleux que ceux contre qui il lutte. Une question, Marianne Chaillant, comment expliquez-vous cette perversité, je vois pas d'autre mot, qui consiste dans la série à décapiter systématiquement les personnages les plus sympathiques? Je veux dire, dans 24 heures, Jack Bauer manque de mourir à chaque épisode, mais enfin, il meurt pas. Là, dans Game of Thrones, ils sont sans limite. Ils sont sans limite et des personnages auxquels on s'attache et dont on espère le meilleur nous filent entre les doigts comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je crois que c'est une leçon que George Martin, l'écrivain de la saga, veut donner aux spectateurs. C'est une sorte de méditation du Valar Morghulis qui traverse la saga. Tous les hommes doivent mourir.
Valar Morghulis.
Même lorsqu'ils n'ont pas accompli leur destin, même lorsqu'ils n'ont pas accompli leurs espérances. La série, effectivement, nous invite à méditer cette pensée de la mort qui peut survenir à tout instant.
La mort ne se soucie pas de nos préférences.
Ni de l'homme vertueux ou de l'homme immoral qu'elle vient emporter.
Mais on a quand même le sentiment que c'est plus la vertu qui meurt d'une certaine manière. C'est-à-dire que la mort soit indifférente et qu'elle tue indifféremment le vertueux ou le vicieux, bon, passe encore. Mais on a ici le sentiment d'une petite prédilection de la mort pour les gens les plus aimables. Est-ce que c'est un effet scénaristique selon vous? Ou est-ce que c'est l'illusion de celui qui déplore la mort des personnages qu'il aime?
Probablement, ouais. En effet, car il y a beaucoup de morts. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, il y a un site d'ailleurs qui recense tous les morts de la série. C'est très bien fait, c'est un cimetière qu'on visite. Mais je voulais rajouter qu'on ne peut pas dire de non. Il y a beaucoup de personnages aimés du public, pensés morts, qui peut-être vont réapparaître.
Peut-être, peut-être. Et Dieu vous entende d'ailleurs, Marianne Chaillant, parce que franchement, il y a des personnages dont on regrette l'absence. Bon, il y en a un qui se porte bien, une qui se porte bien, qui est comme une lueur, une lumière qui apparaît à l'est de Westeros. C'est Daenerys Targaryen. On en a parlé déjà. C'est Khaleesi, dite aussi la mère des dragons. Alors, on a évoqué tout à l'heure le fait qu'elle avait peut-être été violée par son frère et puis qu'ensuite, elle a été mariée à un Dothraki, qui est une sorte de sauvage du coin, avec qui on l'a coquinée avant qu'elle en tombe éperdument amoureuse, etc. Mais surtout, c'est quelqu'un qui se découvre un tempérament de souverain. Comment conquiert-elle cette capacité de femme d'État alors qu'elle commence au début par être la docile sœur d'un frère complètement fou?
Elle se déclare, pour reprendre le vocabulaire qu'on trouve dans les lettres de Giraudoux. C'est vrai qu'au départ, quand on la découvre, elle est timide. Et dans les livres, elle a 14 ans, je crois, ce que ne rend pas bien la série. Très timide, on miserait pas grand-chose sur elle. Et puis elle se déclare, aux côtés de Drogo d'ailleurs, et elle devient, aux yeux de nombreux personnages de la série, le monarque éclairé que tous attendent.
Sans votre présence là-bas pour gouverner, Khaleesi, je crains que les judicieux ne se contentent d'attendre que les envahisseurs s'en aillent pour reprendre le pouvoir.
C'est pourquoi j'ai ordonné à Daario d'exécuter tous les judicieux de Yunkai. Les judicieux arrachent les bébés des bras de leur mère. Ils mutilent des petits garçons par milliers. Ils inculquent aux jeunes filles l'art de donner du plaisir à des vieillards. Ils traitent les hommes comme des bêtes, ainsi que vous l'avez dit vous-même.
Parquer les judicieux dans des enclos et les abattre par milliers, c'est aussi traiter les hommes comme des bêtes. Les esclaves que vous avez libérés n'ont jamais vécu que dans la barbarie, si vous voulez qu'ils connaissent autre chose.
L'esclavage est une réalité. Je peux l'anéantir, je vais l'anéantir, comme j'anéantirai tous ceux qui l'organisent. Il accompagnera les puinés et sera mon ambassadeur à Yunkai. Il racontera aux judicieux ce qui s'est passé à Meereen. Il leur expliquera quel est le choix que je leur donne. Ils peuvent vivre dans mon nouveau monde ou mourir dans celui qu'ils avaient construit.
Bon, c'est pas gagné la démocratie non plus. Hein. Alors c'est la plus sympathique de tous. Mais bon, elle a un peu de mal avec les gens qui se conduisent mal, donc elle est prête à tuer les assassins au fond. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore tiré du pouvoir la leçon selon laquelle on ne se conduit pas exactement comme celui à qui on s'oppose. Et son conseiller, Jorah, qui est d'abord un espion, puis qui devient conseiller, puis qui est très amoureux d'elle, lui donne lui en revanche des conseils de pondération, de sagesse. Étrange personnage, hein, Daenerys.
conseil qu'elle va s'approprier au fur et à mesure de la série. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le spectateur a beaucoup apprécié la rencontre entre Tyrion et Daenerys à la fin de la saison 5. Varys, qui sert le royaume, qui ne sert aucun intérêt d'aucune famille, est un des soutiens les plus fervents de Daenerys Targaryen, et il explique à Tyrion, avant de le rallier à la cause de Daenerys, qu'elle parvient à nous faire sortir de cette aporie, justement,
ce
paradoxe où on a l'impression que toute révolution s'accompagne par une forme de reproduction des mécanismes qui l'ont engendré.
Et que donc elle incarne la possibilité d'un nouveau en politique.
Hein. Exactement. Ouais. Bonne chance pour le trouver, répond Tyrion, qui a dit qu'il s'agissait d'un homme, répond Varys. C'est Daenerys, le monarque éclairé qu'attend Westeros.
Et celui qui fait cette réponse est lui-même un eunuque. On va laisser nos auditeurs sur toutes ces questions ouvertes en les invitant à se plonger dans Game of Thrones. Vous avez 5 saisons qui vous attendent, amis néophytes. Quant à vous qui les avez déjà vues, retrouvez-les tout simplement, re-regardez-les. Vous ne perdrez pas votre temps. Merci Marianne Chaillant d'être venue dans Qui Vive, partager avec les auditeurs d'Europe 1 vos lumières sur l'une des meilleures séries du moment, Game of Thrones, une métaphysique des meurtres. C'est aux éditions du Passeur. Vous y parlez d'inceste, de sang, de mort, de Kant, de Kierkegaard. Lisez-le vraiment, c'est sympa. Avec cette ultime rediffusion, chers auditeurs, s'achève l'été pour nous. Un été qu'on a été heureux de passer, en un sens, en votre compagnie. Avant de reprendre le rythme et de vous retrouver cette fois-ci samedi prochain pour un nouveau numéro de Qui Vive consacré à l'autodéfense intellectuelle en compagnie de la professeure Sophie Mazet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi matin dans la matinale de Thomas Soto pour la morale de l'info. Et dès lundi, de 15h à 16h, du lundi au vendredi, vous avez désormais rendez-vous, nouveau rendez-vous, avec l'ami Nikos Aliagas.
Merci Raphaël Antoven. Les rendez-vous sont notés pour cette belle rentrée d'Europe 1 dès lundi matin. Et dans quelques instants, on profite d'une voix que vous aimez tant pour sa joie que pour son dynamisme et son entrain. J'en suis sûre, c'est Sophie pour la playlist Europe 1.